nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour et bienvenue pour ce troisième volet de Focus. Cette semaine, c'est Marcel Boiteux qui nous livre ses quatre moments préférés, en tout cas les quatre moments de sa vie. Marcel Boiteux, bonjour.
Bonjour.
Alors rappelons en quelques mots votre parcours si vous le voulez bien. Diplômé de l'École Normale Supérieure, puis de l'Institut d'Études Politiques, vous commencez votre carrière au CNRS pendant 3 ans, entre 1947 et 1949. Très vite, vous intégrez la Société Électricité de France, EDF, dès 1949. Et puis hier, nous avons pu donc l'entendre, vous êtes passé par toutes les échelles de la société avant de devenir en 1967 le directeur général d'EDF. Vous êtes à l'origine de petites révolutions au sein de l'entreprise, comme le travail sur les éoliennes, mais également le travail sur le nucléaire. Et nous allons cette fois-ci nous arrêter sur cette période du nucléaire, puisqu'elle vous a beaucoup marqué, Marcel Boiteux, le nucléaire.
Oui, d'autant plus que, je peux le dire maintenant, on commence à le savoir, quand je suis directeur général en 67, j'étais plutôt anti-nucléaire.
Et oui, parce que vous avez des parents...
Parce que mon père, ma mère, qui est professeur de sciences naturelles, moi je suis écolo de naissance. Mais l'étant de naissance, je suis moins farouche que ceux qui ont la foi à 25 ans, c'est comme pour la religion. Et donc, écolo mais tolérant. Mais j'étais quand même plutôt contre et...
C'est quand même un paradoxe.
Oui, mais après
vous
tout...
Vous avez été amené à changer...
Comme je connaissais pas la question, j'étais contre, mais j'étais pas militant. Moi, je suis militant quand je le sais, mais quand je ne sais pas, j'étais intimement contre, mais sans plus. Et donc, il a fallu me convaincre, répondre à mes questions, et au bout d'un an et demi, j'avais eu apaisement sur toutes les questions que je me posais. Puis donc, je peux y aller de bon cœur. Et donc, j'étais donc effectivement un élément actif de la réalisation des centrales nucléaires d'EDF et de la France au cours des 10 années qui ont suivi.
Alors justement, donc à partir de quel moment EDF commence à s'intéresser de près à l'énergie nucléaire ?
Il y a bien avant que j'arrive, il y avait déjà l'idée que l'énergie nucléaire pourrait être utilisée à des fins civiles, et le directeur des études et recherches d'EDF, dès le début de 1960, avait pris contact avec le commissariat atomique pour que nous soyons associés aux toutes premières réalisations qui étaient des petites usines faites le long du Rhône. Alors nous fournissions la chaudière pour être au courant, eux faisaient le réacteur, mais on était associés. Et puis ensuite, on a lancé les premières grandes centrales dites gaz et graphite.
C'était dans période de quelle année à peu près ?
C'est dans les années 60. La filière dite française, qu'on appelle française, elle est également anglaise, qui consiste à utiliser du graphite comme modérateur. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Il faut modérer les neutrons, ils n'aillent pas trop vite. On fait du graphite comme modérateur et du gaz carbonique pour enlever la chaleur.
Mais tout ça, c'était au stade expérimental.
Ah, c'était déjà des centrales. Ah non, les premières EDF1, EDF2, EDF3, qui s'appellent maintenant Chinon 1, Chinon 2, Chinon 3, je crois que Chinon 1 a déjà été démoli, et peut-être même Chinon 2, mais ces centrales de Chinon construites dans les années 60, c'était vraiment les premières centrales industrielles. Avant, c'était des essais. Et donc, ces premières centrales, elles ont été faites avant que j'arrive. Et au moment où je suis arrivé, on se posait une question fondamentale, c'était de savoir si j'allais continuer sur la filière dite française, à base de graphite et de gaz, ou si on allait passer à filière dite américaine avec de l'eau ordinaire qu'on appelle légère, pas pollution à l'eau, l'eau légère. Et la bataille commençait à faire rage parce que il semblait que la filière dite à eau légère avait des chances d'être moins coûteuse, mais elle exigeait l'emploi d'uranium enrichi.
Enrichi.
Et nous ne savions pas enrichir l'uranium en France, il fallait l'importer des États-Unis. Et donc, à cette époque, de nationalisme assez poussé, que je ne critique pas d'ailleurs, il n'est pas possible de changer de filière, on dépendrait des États-Unis. Et puis, l'usine de séparation isotopique a réussi, Et de ce jour-là, on savait faire l'uranium enrichi. Elle a été réussie pour faire la bombe. Mais c'est le même uranium enrichi qui peut servir pour faire des centrales. De ce jour-là, on a eu le droit de parler de filière à uranium enrichi.
Donc on n'avait plus besoin de.
Et donc on n'avait pas besoin de passer par ces monstres qui étaient les centrales uranium naturel à gaz et à graphite, qui étaient d'immenses cathédrales. Et on pouvait songer donc à passer à cette filière apparemment plus simple. Je peux peut-être en quelques mots présenter le choix.
Oui, bien tout. Sûr, bien sûr. Oui, c'est,
sans abuser de la technique. Le principe de réaction nucléaire, c'est qu'un neutron expulsé a une force suffisante pour en casser un autre, de telle manière qu'il y ait chaque fois une explosion. Et que ça puisse comme ça. Alors, si ça grandit exponentielle, c'est l'explosion. Donc, il faut réguler ce système. Alors, dans la filière dite à uranium naturel, on prend l'uranium naturel qui ne contient que 0,7%, je crois, d'uranium utilisable. Le reste n'est pas utilisable. Et donc, on utilise très mal. D'autre part, on est obligé de mettre ça dans des canaux qu'il faut constamment renouveler parce qu'il y a tellement plus d'uranium qu'il faut renouveler constamment. Et comme on manque de neutrons, parce que on est parti de quelque chose qu'il n'y en a pas beaucoup, tout est marqué par la chasse aux neutrons. Pas question d'utiliser comme gaine pour le combustible de l'acier inoxydable, c'est trop simple. On a inventé un métal subtil qui a un défaut, c'est qu'il fond à 50 degrés de plus que la température normale, ça peut arriver. Donc une gaine fragile. Il faut donc détecter les ruptures de gaine. Il y a donc détection sur les, je sais pas combien il y avait de canaux, plusieurs centaines de canaux, une détection par canal pour s'assurer qu'il se passe rien. Oui. D'autre part, il n'est pas question de ralentir les neutrons avec de l'eau. Ça prendrait trop de neutrons, d'où le graphite. Graphite, c'est pas mal, c'est un défaut, on voit rien à travers. C'est un solide. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'uranium, il faut constamment renouveler les combustibles, donc en marche. On a donc au-dessus de la centrale une espèce de sous-marin. C'est un sous-marin, ça a été fait par les chantiers de l'Atlantique, qui sont habitués de faire les sous-marins. C'est une espèce de sous-marin affalé sur le tout, et qui automatiquement s'approche, enlève la pression du canal, débouche, met le bouchon de côté, enlève un combustible de combustible, remplace le troisième, remet, referme, remet sous pression, tout ça automatiquement, sans présence humaine.
Mais tout ça, en fait, vous êtes en train de nous dire que cette première méthode est assez fastidieuse, finalement.
Ben, en tout cas, lourde et difficile. Mmh. Un Américain qui était venu voir m'a dit que ce qui est formidable, c'est que ça marche. Alors, finalement, et donc, tout ça est très compliqué, écoutez, ça marchait quand même, c'est vrai. Alors, quand on a de l'uranium enrichi, on est à l'aise, on a autant de neutrons qu'on veut. Ça manque pas. Alors, la gaine de l'acier inoxydable, c'est connu. Maintenant, on fait un peu mieux depuis. Le modération de l'eau, ramassage de la chaleur avec de l'eau, tout ça est une simplicité angélique. En contrepartie, il faut avoir l'uranium enrichi, donc il faut l'enrichir. Quand on met bout à bout, c'est peut-être presque aussi compliqué que l'autre. Avec l'avantage, il y a un stock au milieu. Quand l'un est en panne, l'autre ne l'est pas. Et finalement, il m'est apparu très clair que dès lors qu'on savait faire l'uranium enrichi, c'était la bonne filière. On a eu raison, car tous ceux qui sont restés sur le gaz graphite, notamment les Anglais, ont complètement raté leur politique nucléaire. Donc, premier choix, où on a fait le bon choix, c'est de passer à l'uranium enrichi, après des luttes assez féroces.
Alors oui, justement, donc ça peut être facile. Voilà, c'est que dès 1977, vous essuyez des menaces de mort.
Ça, c'est autre chose. C'était contre le nucléaire, ça.
Contre le nucléaire.
Parce qu'il y a deux choses, il y a changement de filière, puis le fait qu'à partir de 73-74, apparaît une opposition qui avant était absolument... On ne la connaissait même pas, il y en avait une. On voyait des gens qui étaient des gitans, ou comme moi, qui étaient plutôt contre, mais qui n'étaient pas militants.
C'est ça en fait, c'est que le nucléaire existait déjà, mais il n'y avait pas d'opposition.
Il y a même des gens qui s'extasiaient, on allait faire l'énergie comme ça, sans limite. Enfin, donc dans les années 60, le nucléaire c'était le miracle. Et les critiques... Et qui existaient déjà, mais ont commencé à se faire connaître au début des années 70, et elles sont devenues violentes à partir du grand programme, à partir de 74. Alors là, c'est devenu une vraie guerre. Nos ingénieurs recevaient, enfin, du moins, leurs épouses recevaient des cercueils par la poste, c'est pas réjouissant. Quand on faisait des réunions d'information, nous étions agressés par des manifestants musclés, qui nous empêchaient de parler. Et puis, pour moi, le comble, ça a été le plastiquage dans l'appartement. On a failli y passer par miracle. Ma femme, ma fille et moi, on était dans les coins assez éloignés. On était protégés, mais c'est quand même un véritable attentat.
Voilà, est-ce qu'on pourrait essayer de resituer un peu le contexte? On est en 1977, c'est cela?
77, oui.
Donc, pourquoi votre appartement a été plastiqué? Quel était le contexte?
J'étais le symbole du nucléaire. J'étais le patron d'EDF.
C'était un an avant la fin de votre départ en tant que directeur général.
Oui. EDF était le symbole du nucléaire. Le commissariat atomique qui faisait le nucléaire militaire était en un sens beaucoup plus coupable, entre guillemets. Mais nous étions obligés de chercher des sites pour se mettre aux centrales. On était très vulnérables. Le commissariat était dans son coin.
Vous étiez beaucoup plus présent face au public.
Exactement. Puis en plus, le commissariat avait des relations suivies avec l'université, parce qu'il y a de grosses têtes. Alors que nous, on n'avions pas les mêmes. Et le paradoxe, c'est que les universitaires avaient confiance dans le commissariat, qui faisait des choses extrêmement dangereuses et quelquefois cachées. Et nous, qui étions transparents et ouverts, on était soumis à toutes les critiques. Il y a eu même un jour la manifestation des 400 scientifiques, on a regardé ce que c'était. Il y avait 12 professeurs, puis il y avait quelques étudiants, et puis divers autres personnages pour faire les 400. Dans les 400, il y avait mes camarades de promotion. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous voulez? Ben, il m'a dit, on a l'impression que vous vous lancez là-dedans sans reconnaître les risques. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as lu nos papiers? Il a dit, non. Donc, c'était devenu psychologique. Il y avait une opposition organisée au nucléaire qui, à mon avis, n'était pas totalement innocente. Il y a un grand nombre de gens qui, en toute bonne foi, étaient contre, mais il y avait derrière cela quand même une certaine organisation dont on peut peut-être dire que, d'une part, les Russes venaient de perdre la guerre nucléaire à partir du moment où les Américains avaient décidé de faire ce grand bouclier. Ayant perdu la guerre nucléaire, ne pouvant plus la suivre, il n'y avait plus qu'une solution pour s'en tirer, c'est de diaboliser le nucléaire en Occident. Ils n'ont pas les gênés pour ça. Et puis, d'autre part, quand il est apparu que le nucléaire était finalement beaucoup meilleur marché qu'on ne le pensait quand on le faisait en série, et qu'il a donc remplacé le pétrole, dans une large mesure, les pétroliers arabes n'ont pas été non plus très rassurés et les mauvaises langues prétendent qu'ils ont aussi financé quelques actions. Alors moi, je n'ai pas de preuves précises, j'ai eu quelques indications quand même sur l'intensité de ces actions, mais il est clair qu'elles ont eu lieu, ce qui n'a pas facilité les choses.
Et vous pensez qu'en fait, l'URSS, à cette époque-là, a essayé de diaboliser un peu le nucléaire pour...
Ah ben, il n'y a aucun doute, c'est ça, il n'y a aucun doute.
Et vous pensez que ça a vraiment eu un impact sur les Français?
Ben oui, parce que quand on met beaucoup d'argent dans la communication, on a des résultats, ça...
Et finalement, vous qui au départ étiez hostile au nucléaire, vous êtes porté, en défenseur du nucléaire.
C'est vrai. Et comme ayant été plutôt contre, j'avais étudié, j'avais de bonnes manières de dire pourquoi j'étais pour. On m'a toujours empêché de parler. J'ai jamais pu m'exprimer très longtemps. J'étais trop convaincant quand on me laissait parler.
On revient en 1977 pour évoquer donc ce moment un peu sombre. Hein. Donc, c'est un organisme bien particulier qui plastique votre appartement.
Ça a été revendiqué par le CACA, Comité d'action contre les crapules atomiques, CA2CA. Alors heureusement, ce CACA n'était pas reconnu par la préfecture de police, de sorte que c'est mon assurance qui a payé, sinon c'était l'État. Je n'aurais pas encore touché un sou. Mon assurance a payé sans problème.
Et heureusement, il n'y a pas eu de blessés.
Non, c'est un peu miraculeux. C'est un peu miraculeux parce que quand des pompiers sont arrivés, ils ont persuadé qu'ils allaient ramasser des cadavres. L'escalier de l'immeuble s'est effondré jusqu'en bas. Ça commençait à brûler. En entrant, on voyait l'étage d'en dessous, il y avait un trou dans le plancher du hall. On voyait l'étage d'en dessous, il y avait un trou aussi. Et la chance a voulu que ma fille, dans un coin de l'appartement, était projetée par deux portes successives. Moi, dans une autre, dans deux portes successives. La première était volatilisée. Et la seconde, moi, j'ai reçu la poignée sur les pieds. Et ma fille, les deux panneaux de la porte sont arrachés. Mais on n'a même pas eu des problèmes d'oreille. Mais c'est parce qu'on avait deux portes. Il y en a eu qui étaient ouvertes, on y est passé. Donc, on a eu pas mal de chance.
Et petit à petit, au fur et à mesure des années, ces groupes se sont apaisés.
Ben, je pense que ça se calme un peu, mais l'information ne passe toujours pas. Je vais prendre un exemple quand même qui est assez caractéristique. Tout le monde raconte tous les trois mois dans les journaux que le professeur Pellerin a dit que le nuage s'était arrêté à la frontière. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça, quand même pas idiot. C'est un journaliste qui l'a dit pour interpréter sa pensée. Et alors, ben, sur le moment, il s'est pas méfié. Puis peu à peu, ce message s'est répandu comme exemple dans la manière dont l'État cachait les choses aux Français. Jusqu'au jour où il y a un livre dans lequel ce propos était écrit. Alors, il a été en justice, il a gagné, les auteurs ont été en appel, il a de nouveau gagné, et les auteurs craignant d'être ridicules, il y avait chez ma mère parmi eux, il a été en cassation, ils ont gagné en cassation. Aucun journal vous a dit qu'il a gagné ses procès, il n'a jamais dit qu'il y en a, etc. à la frontière, c'est absurde. Et donc, il y a une information complètement biaisée. Il faut reconnaître au surplus que les techniques dites de communication, on vous dit quand vous êtes attaqué, il faut surtout pas répondre. Vous répondez après quand l'occasion se présente. Moyennant quoi, quand on ne répond jamais aux attaques, les gens savent pas que le trois quarts de ce qu'on dit est absurde. Et peu à peu, les choses se calment, c'est vrai. Mais moi, ça me fait un peu mal de penser que les techniques dites de communication qui ont réussi à s'adresser aux tripes des gens et pas à leur cervelle, ce que je trouve méprisant, sont effectivement efficaces. Il faut s'adresser aux tripes des gens pour que ça marche. Et on ne peut donc pas raisonner dans ce domaine où il y a certes des problèmes, mais pas du tout ce qu'on pose.
Merci Marcel Boiteux. On se retrouve demain pour évoquer le dernier fait marquant de votre vie. Merci, à très bientôt.